Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
L'été sur France Culture, chaque année, des séries nouvelles, des rendez-vous inhabituels, par définition. En 1995, Ruth Stegessy s'intéressait à la bêche et au fourneau. Comprendre l'outil, sous de nombreuses formes et utilités. Un atelier, le jardin, les légumes, les fruits, les mauvaises herbes, en cuisine, dans une buanderie. Vous savez, là où peut se trouver la machine à laver le linge. Bref, des objets pour le loisir, parfois même un loisir très prenant. Cette nuit, un monde qui peut-être vous échappe mais vous fascine, celui du bricolage. Première diffusion sur France Culture, le 29 juillet 1995.
À la bêche et au fourneau, une émission proposée par Ruth Stegessy. Bonjour, une émission que je vous proposerai tout cet été, le samedi et le dimanche matin, à l'aube, à l'heure où blanchit la contrée ou presque, en tout cas de 7h à 8h. Une émission dans laquelle il sera question tous les week-ends de choses qui nous occupent le week-end en général, c'est-à-dire la maison et le jardin. Alors la maison le samedi, le jardin le dimanche, il faut être ordonné, il faut être classé. On y parlera de ces espaces dans lesquels nous habitons en partant des espaces eux-mêmes, c'est-à-dire en partant des murs, des meubles, des objets qui composent les maisons et puis des plantes, des abris de jardin, des décorations qui composent nos jardins. On en parlera à chaque fois avec un invité différent. Aujourd'hui, on va commencer par se bricoler une introduction extraordinaire à cette bêche et ce fourneau avec Claude Bonnette-Lucas. Claude Bonnette-Lucas, bonjour, vous êtes sociologue, bonjour. Vous êtes chercheur au LASMAS, le laboratoire d'analyse secondaire du CNRS. Et vous avez fait une thèse sur le bricolage. Est-ce que vous êtes vous-même bricoleuse ou bien est-ce que c'est une approche de... comment dire, comme on pourrait s'approcher d'un extraterrestre?
Non, je suis moi-même bricoleuse et je suis...
Pour parler de l'intérieur.
Issue d'un milieu très bricoleur, un milieu de province, pyrénéen, extrêmement bricoleur, dont toute ma famille. Et je suis moi-même bricoleuse, peut-être un petit peu moins depuis que je fais des recherches sur le bricolage, puisque je manque de temps quand on est universitaire. On manque quelquefois un petit peu de temps pour faire de la pratique et quand on consacre trop de temps à la théorie.
Alors, il me semble que vous avez dit déjà deux choses qui me font dresser l'oreille. D'une part, que vous venez d'un milieu de bricoleurs. Ça semblerait indiquer qu'il y a vraiment des milieux. C'est pratiquement quelque chose qui se transmet.
Oui, absolument. C'est quelque chose, bon, dans l'enquête que j'ai pu faire, j'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure, auprès d'un 80, en fait, plus de 80 bricoleurs, on voit bien que la plupart des bricoleurs ont appris à bricoler dès leur plus tendre enfance.
En famille.
En famille. Une bricoleuse par exemple, me dit toute petite, déjà, je nageais dans les copeaux, c'était mes premiers jeux avec mon père, la scie, le bois, etc.
Quelle merveille, un parfum envahit le studio. Là. Et alors l'autre élément, c'est le temps. Vous dites, il faut du temps pour bricoler.
Oui, c'est-à-dire que, en fait, En fait, peut-être qu'on verra tout à l'heure quand on verra un peu plus précisément les divers groupes de bricoleurs. Il y a des bricoleurs pour qui le bricolage est pratiquement la seule occupation, j'allais dire de loisir, mais bon, je reviendrai un petit peu peut-être sur est-ce que c'est un loisir, est-ce que c'est un travail. C'est la seule occupation. D'autres qui sont des gens extrêmement polyactifs et finalement qui ont toute une série d'activités différentes par ailleurs. De loisirs, etc.
Marie-Vonne Abolivier, vous êtes bricoleuse ?
Oui, je suis bricoleuse. Enfin, j'aime surtout tout ce qui va servir à bricoler. La toilemmerie, la colle, le ciment. J'adore les rayons bricolage dans les magasins. Vraiment, les roulettes, tout ça, vraiment, ça me fascine. Et puis bon, souvent, je me dis, tiens, une roulette. Et puis, je trouve quelque chose à faire autour de la roulette ou autour de, je ne sais pas, j'adore les équerres en bois. Enfin, vraiment, tout ce qui est surtout matériaux, etc. Ça, j'adore ça. Je ne concrétise pas toujours, mais bon, vraiment. Et puis quand je commence un chantier de bricolage, vraiment, c'est carrément un rituel. Je prépare et vraiment, quand je me sens très prête, j'y vais. Mais il me faut quelquefois 2 ou 3 semaines pour préparer, pour acheter toutes mes petites choses. Et là, je me lance. Et puis là, je ne peux plus. Il ne faut plus me parler. Je finis mon chantier, mais je ne mange pas. Voilà, quoi, je vais jusqu'au bout. Donc, je fais plein de choses, un peu de ciment. J'aime beaucoup aussi poncer le bois et remettre un bois à nu. J'adore ça. Quand il y a 20 couches de peinture, on en enlève une, deux, et puis on voit bien, commence à le voir, le bois. Et puis vraiment, c'est la découverte, quoi. Ça, j'adore ça. Et puis, j'aime bien les vernis, les peintures. Vraiment, ça me fascine. C'est un univers qui me fascine. Mais c'est bon, je ne suis pas un artisan. Hein, ça, c'est... Et alors, quelquefois aussi, j'échoue.
C'est quoi la différence avec un artisan ? Vous dites, je ne suis pas un artisan.
Parce que je ne suis pas une professionnelle. Un artisan, il a tout le matériel vraiment approprié. Et puis, il fait une chose dans le bricolage. Ou c'est le bois, ou c'est le ciment, ou c'est... c'est pas la peinture, ça aussi d'ailleurs, quand je vois ici, là, par exemple, dans la maison, les peintres, je me dis qu'ils arrivent à rendre un mur plane, ils font des surfaces bien lisses et tout. Moi, j'arrive pas à faire ça, par exemple. Vraiment, je crois que ça s'improvise pas. Il y a des techniques qu'on apprend. Et le bricoleur, la différence, c'est qu'il ne réussit toujours pas ses chantiers. Et puis, justement, c'est ça la différence. Je pense que les artisans ont des secrets et des bons secrets qu'ils gardent et que les bricoleurs n'ont pas. Et voilà ce qui fait la différence du travail d'un artisan et d'un bricoleur amateur. Je pense que c'est ça.
Mais vous avez l'impression que vous ne pouvez pas apprendre ?
Si, mais qu'il faudrait du temps, de la pratique, si, sans doute, mais du temps, quoi. Il faut du temps, je pense. Et puis être accompagné d'un artisan, un vrai, il faudrait faire un apprentissage pratiquement.
Vous parlez surtout des objets qui sont autour du bricolage, c'est-à-dire aussi bien les outils que les matériaux. Vous en parlez plus finalement que du but. On dirait que le but, c'est complètement secondaire pour vous.
Presque, parce que c'est vraiment surtout ça qui me fascine. Le but, c'est vrai qu'on est aussi très satisfait quand on a fini quelque chose, on le montre à tout le monde, c'est moi qui l'ai fait, c'est vraiment une satisfaction. Mais il y a aussi surtout utiliser tous ces objets, ces outils, ces matériaux, vraiment ça, je trouve ça, c'est comme quand on est enfant, la peinture, on adore la peinture, finalement ce qu'on couche sur le papier, c'est pas tellement le résultat, on s'en fiche un peu, c'est surtout de la patouiller, de la toucher, enfin, c'est beaucoup ça qui me plaît, vraiment.
Vous traînez beaucoup dans les rayons bricolage ?
Ah oui, j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. Et puis, la population est très drôle parce qu'il y a aussi les gens qui demandent beaucoup de conseils et qui finalement s'éparpillent un peu comme moi. Et on voit les gens qui savent vraiment ce qu'ils vont faire, qui posent la question. Et puis, bon, c'est marrant. Les vendeurs de bricolage, c'est aussi c'est un personnage, je trouve. Le vendeur est très sûr de lui. Il vous assure que son produit est celui qu'il vous faut et tout. Donc, c'est assez drôle. On a vraiment l'impression d'avoir affaire à un spécialiste et on est rassuré quand on lui a acheté le produit qu'il vous a vanté, quoi. Donc je trouve que vraiment c'est drôle. Quand on descend au BHV, là, en plus c'est souterrain, on a vraiment l'impression de tomber dans la caverne d'Ali Baba et tas de choses, on se demande bien à quoi ça peut servir. Enfin, c'est vraiment drôle, j'adore ça.
Ça vous est arrivé de vous inventer un chantier à partir d'un outil que vous aviez trouvé particulièrement beau ?
Je l'ai trouvé, ça. Je sais pas ce que c'était, un compas, un très joli compas. Et j'ai essayé de savoir si on pouvait faire un rond sur du bois. J'ai tracé autour, j'ai mis un crayon au milieu et tout, mais j'ai jamais compris à quoi ça servait. J'ai toujours cet outil, il faudrait que je demande, mais je sais pas à quoi ça sert. Bon, c'est peut-être quelque chose pour le dessin, j'en sais rien, mais c'était vraiment très beau. Il y avait plein de petits chiffres, des petites échelles, mais je sais pas ce que c'est.
Donc vous achetez sans demander en fait.
Bah oui, ouais. Je ne l'ai pas acheté parce que je l'ai trouvé, mais si je l'avais vu avant, je l'aurais peut-être acheté, oui.
Quelle est la réalisation dont vous êtes la plus fière?
J'ai fait un miroir, enfin j'ai entouré un miroir d'une mosaïque de billes, des billes à jouer. Et puis alors il prend la lumière et les faisceaux de lumière selon la couleur des billes, c'est vraiment très joli, enfin j'en suis très très fière. D'ailleurs ça prône comme ça au milieu du salon, c'est vraiment... Mais bon, j'ai eu du mal à le faire parce que c'était un peu délicat, mais je l'ai raté une première fois, je l'ai recommencé, mais il est très beau, j'en suis très fière.
On peut recommencer?
On peut recommencer, oui, mais alors là c'était vraiment, je l'ai caché pendant, il était raté, je l'ai caché mon miroir, je ne voulais plus le voir, j'étais très déçue, et il a fallu que j'en fasse mon deuil et que je revienne pour le refaire, mais longtemps après, il s'est peut-être passé 6 mois entre les deux, et donc j'en étais du coup 2 fois plus fière quand je l'ai réussi, quoi.
Et comment est-ce que vous l'avez fait?
Et ben d'abord, j'ai mis du ciment sur le cadre en fait du miroir. J'ai mis du ciment colle, ce qu'on appelle du ciment colle. J'ai planté mes petites billes dans le ciment colle. J'ai attendu que ça sèche. 3 fois plus long que ce que me disait le mode d'emploi, pour être bien sûr. Et ensuite, j'ai mis un joint de couleur, en l'occurrence c'est vert, pour unifier en fait les billes. Et puis voilà. Et puis j'ai verni pour que ça brille. Et puis voilà.
Mais ça a l'air tout facile d'écrire comme ça.
Oui, tout facile, sauf que la première fois, mon ciment colle n'a pas tenu les billes et tout s'est cassé la figure. Mais ça a l'air facile, finalement, quand j'en parle, oui, c'est facile, mais le résultat est très beau.
C'est plus facile d'en parler que de le faire, Claude Bonnet-Lucas.
J'ai trouvé cet entretien tout à fait intéressant. Ça me suggère plusieurs choses que j'ai trouvées à plusieurs reprises dans mon enquête. Plusieurs points qui sont assez différents les uns des autres. Alors le premier c'est une jeune femme qui est en train de parler et il y a plusieurs traits que j'ai retrouvés d'ailleurs l'intérêt, cet intérêt pour la décoration et pour l'esthétique. C'est vrai qu'il y a une augmentation du bricolage des femmes. C'est vrai que c'est quand même, pour l'essentiel, un bricolage
esthétique.
Qui est du côté de l'esthétique et du côté de la décoration. Mais vous avez remarqué, ça, c'est tout à fait intéressant qu'elle parle du ciment et du bois. C'est-à-dire que, étant donné... sur le ciment, on paraît intéressant. Parce que ce bricolage chez les femmes, j'ai remarqué... pouvait aller jusqu'à des opérations, disons, de petits bâtis, le carrelage, là elle fait de la mosaïque, du petit bâti, des barbecues, des petites cheminées de jardin, etc. Donc un intérêt plus général pour le bâti, de façon générale, c'est-à-dire que le bricolage des femmes, quand il va plus loin, disons, que poser les papiers peints ou faire de la peinture, débouche essentiellement sur des opérations de bâti, alors que tout ce qui est plomberie, électricité, réglage mécanique, etc., réparation d'objets électroménagers restera quand même le domaine des hommes.
Il y a donc un bricolage des femmes et un bricolage des hommes. Je dois dire que moi j'ai été surprise de rencontrer comme ça aussi facilement une deux bricoleuses avec vous. Enfin, je pensais pas que c'était si répandu effectivement chez les femmes. D'apprendre que les activités sont comme ça sexuées, c'est étonnant.
Oui. Alors d'un côté, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est-à-dire que vous avez.
J'essaye.
D'abord, premièrement, il y a quand même beaucoup moins de femmes qui bricolent que d'hommes. Il faut être clair, c'est beaucoup moins répandu. Dans les chiffres, nous avons quand même 2 à 3 fois moins de femmes qui bricolent que d'hommes. Bon. C'est-à-dire que la division des tâches en général dans les ménages reste tout à fait traditionnelle. Mais quand les femmes bricolent, c'est vrai que vous avez 2 types de femmes. Un type minoritaire, je dirais, ce sont un certain type de femmes qui veulent être autonomes, souvent qui vivent seules, qui sont mises quelquefois au bricolage en divorçant. On pourrait dire, en caricaturant un peu, que les hommes se mettent au bricolage en se mariant et les femmes en divorçant.
Ça voudrait dire qu'il y aurait un élément de nécessité ?
Bon, oui, mais c'est une nécessité dans plusieurs sens. Je veux dire, le mot nécessité, je crois qu'il ne faut pas prendre la nécessité uniquement au sens de nécessité financière, économique. C'est aussi une nécessité d'autonomie. Il y en a qui me disent, moi, je ne veux pas toujours dépendre d'un bonhomme. Hein, une employée qui me dit ça. C'est-à-dire, ne pas dépendre de son père, ne pas dépendre de ses frères, ne pas dépendre de son ex-mari, puisque certaines font revenir leur ex-mari pour faire du bricolage. Donc, il y a ce bricolage de... Donc, elles font un petit peu les réparations électriques, la petite plomberie, en dehors, disons, du petit aménagement. Ça, c'est, disons, le portrait d'un certain type de femme, qui est minoritaire parmi les femmes bricoleuses. C'est vrai que la plupart des femmes bricoleuses font surtout des travaux de décoration, d'aménagement, qui peuvent aller assez loin. Hein, je ne dis pas ça en disant que ce ne sont pas forcément des petits travaux. Ça peut être des travaux...
Oui, quand vous dites petit bâti, ça veut pas
dire... Ça peut être du petit bâti, ça peut même aller assez loin. C'est-à-dire que j'ai rencontré des jeunes femmes, une assistante sociale en particulier, qui était allée quand même jusqu'à des travaux importants de bâti. Elle avait posé un parquet flottant, par exemple, sur une...
Qu'est-ce que c'est qu'un parquet flottant?
Bon, on va pas se lancer dans la technique, je veux dire, un parquet flottant n'est pas cloué, si vous voulez, sur...
D'accord, je l'imaginais sur un lit d'eau.
C'est très poétique, mais c'est pas tout à fait ça.
Dommage, j'aurais pas dû poser la question.
Tiens. Donc, non, je veux dire, elles font quand même... Si vous voulez, avant, vous aviez c'est comme s'il y avait une nouvelle constellation des activités de la femme au foyer, c'est-à-dire avant... Elle faisait de la couture, du tricot, de la dentelle,
et de la cuisine.
De
la lessive du repassage.
Voilà, de la lessive du repassage. Alors maintenant, il y a toujours, bien sûr, cuisine, lessive, repassage, même si les hommes participent un petit peu, c'est pas encore l'égalité totale des tâches, comme
on
tout le monde le sait.
On aura l'occasion d'en parler à la bêche
au
fourneau.
Vous en parlerez
nous
davantage.
Nous aurons l'occasion de dénoncer cette situation.
Mais je veux dire, c'est une nouvelle constellation dans le sens que des travaux, maintenant, effectivement, ce sont souvent elles qui prennent en charge, et quelquefois même qui prennent en charge toutes seules, c'est-à-dire que le mari ne les aide pas, disons, des travaux de papier peint,
Oui, mais parce qu'il y a une composante de plaisir qui est très nette dans le témoignage qu'on a entendu.
Oui.
Marie-Vonne Abolivier est une passionnée, elle fait du bricolage parce qu'elle aime.
Oui, il y a une composante de plaisir, c'est pour ça que je... Bon, mais cette composante de plaisir, elle existe. Je veux dire, elle existe chez tous les bricoleurs. Même ceux qui vous diront « je bricole par nécessité », bon, bien sûr que dans certains cas, et encore, il faudrait y revenir plus précisément, le bricolage est économique, bon, disons, admettons, dans certains cas, mais c'est vrai que la composante de plaisir, du travail libre qu'on a effectué soi-même, d'un bout à l'autre, c'est-à-dire ce qu'on voit bien dans votre entretien, elle l'a conçu, Et ce qui est intéressant aussi dans cet entretien, pour plusieurs petits points, bon, c'est vrai, le sous-sol du BHV,
qui est le BHV,
contrairement à d'autres grands magasins comme Castorama ou Leroy Merlin, qui s'adresse quelquefois aux femmes, et le BHV a une politique directement axée sur...
Ah oui.
J'avais vu des gens, disons, qui vraiment visaient la clientèle, féminine. En général, c'est une clientèle, d'ailleurs, cadre moyen supérieur. C'est-à-dire que ce sont plutôt...
Ça reste quand même très fréquenté par les hommes. C'est vrai que
bien sûr. Non, mais je veux dire, quand je dis qu'ils visent
cette clientèle, effectivement,
ils ne visent
ce qui
pas
est
que cette clientèle.
Oui.
Mais elle est plus présente chez eux. Vous allez dans des rayons outillage de Castorama, là, vous ne voyez pas de femmes.
Mais en tout cas, ça confirme ce que vous disiez, ça corrobore cette évolution, c'est-à-dire l'arrivée des femmes sur le bricolage.
Je disais quand même essentiellement sur les parties les plus esthétiques du bricolage. C'est-à-dire que assez curieusement, puisque bon, moi j'aime bien au contraire faire un petit peu de petite mécanique, je ne me situe pas tout à fait je ne me situe pas plutôt du côté de ces femmes qui voulaient un minimum d'autonomie. C'est vrai que elle laisse quand même encore aux hommes, aux maris, tout ce qui est réglage, comme je vous disais, petit entretien électrique, petite plomberie.
Alors puisque vous êtes du côté de la mécanique, vous allez peut-être maintenant nous faire un éloge du beau qui serait le beau de la mécanique, le beau de ce bricolage que les hommes préfèrent alors.
Pas que tous les hommes préfèrent. Là
que
aussi,
les
surtout
hommes,
pas
j'ai pas dit tous. N'ayez pas peur.
Il ne faut pas caricaturer. Hein.
Je ne caricature pas, je vous le promets. Je vous le promets. J'ai entendu qu'il y avait des nuances.
Voilà. Il y a une beauté du mécanisme qui marche bien. J'ai rencontré des Bon, j'ai rencontré des bricoleurs qui n'étaient pas des bricoleurs inventeurs, si vous voulez, au sens où ils auraient eu une reconnaissance publique, mais qui étaient des petits bricoleurs de petits mécanismes du quotidien. C'est-à-dire des gens, bon, alors je vais vous donner un exemple. Un exemple de chez moi. Dans les Pyrénées, les gens pratiquent beaucoup, alors je sais que ça va peut-être faire, évidemment ça fait hurler certains, mais pratiquent beaucoup encore la chasse à la palombe. Et la chasse à la palombe suppose qu'on utilise des pigeons pour attirer, hein, disons, les vols de palombes et pour les faire se poser. Ces pigeons sont donc attachés plus ou moins sur des espèces de raquettes qui fonctionnent avec des petits mécanismes, des petits engrenages, de façon à ce que les pigeons, de temps en temps, changent de position, battent des ailes, etc. Et il y a toute une petite ingéniosité, éventuellement, autour de ces petits mécanismes qui seront récupérés, autour du fait que ça marche bien, qu'on inventera des petites choses qui resteront obscures. Si vous voulez, ce qui m'a intéressé, c'était le bricolage quand même, ce petit...
Un peu secret.
Pas forcément secret, mais disons, c'est pas le bricolage à grande visibilité. Vous savez, il y a des gens, quand on leur dit bricolage, ils disent oui, Léonard de Vinci, c'est l'exemple type du bricoleur, ou bien qui me cite beaucoup, plusieurs fois m'a été cité, l'inventeur du Macintosh, Apple, dans son garage, en train de bricoler son petit ordinateur. Donc, ce qui m'intéressait, c'était pas, si vous voulez, c'est pas non plus vraiment les gens du concours Lépine, bien que je n'ai rencontré, ce sont des gens dans le bricolage quotidien de tous les jours. Et c'est vrai que pour en revenir, disons, au mécanisme, il y a un certain plaisir d'un certain type de bricoleur, mais pas tous, loin de là, à démonter des petits mécanismes, à voir ce qui ne va pas. Et je pense que c'est lié dans un certain nombre de cas à un refus de l'opacité des objets techniques, c'est-à-dire essayer d'aller jusqu'au bout de ses forces, de comprendre, même quand on n'est pas spécialiste de la matière, d'essayer de comprendre quand même comment ça marche.
Mais ça, c'est aussi une forme de bricolage qui doit être en plein essor avec l'irruption de toutes ces machines dans la maison.
Alors oui et non, parce que c'est vrai que c'est un bricolage qui est souvent un bricolage d'ouvriers qualifiés de techniciens et d'ingénieurs. Si vous voulez, il y a une espèce de ligne technicienne qui traverse en gros l'échelle sociale, qui était un bricolage. Bon, quand on regarde la revue Système D, qui est une revue qui date de 1924 et que j'ai pas mal dépouillée à la Bibliothèque nationale, dans cette revue, vous avez tout au long du siècle, vous avez ce démontage de mécanismes. Or, les objets à l'heure actuelle sont quand même, un certain nombre d'objets découragent quand même le bricoleur. Certains me le disent parce qu'ils ont des parties serties, parce qu'ils ont des parties ils ont des composants électroniques qui leur sont inaccessibles, parce qu'il faut changer des pièces et qu'on ne peut pas vraiment réparer comme avant ils réparaient leurs petits engrenages ou leurs petites poules.
Est-ce que ça pourrait être ça la différence entre bricoleur et artisan ?
Plus doucement.
Bernard Léger, vous êtes artisan électricien.
Oui, absolument.
Et ça veut dire que vous êtes également bricoleur ou pas du tout ?
Plutôt beaucoup, oui.
C'est la même chose pour vous ?
Non. Le bricolage, c'est plutôt pour le plaisir, alors que l'artisanat, c'est pour le travail. En fait, on ne quitte jamais vraiment le métier. Alors, le bricolage, ben, c'est tout. Parce que maintenant, je suis artisan électricien, mais avant, j'étais artisan tout corps d'État. Donc là, c'était aussi bien la plomberie, la plâtrerie, la peinture, etc. Donc en fait, la semaine, c'est pour le travail, et les week-ends, c'est soit pour moi, soit pour les amis.
Est-ce que vous avez l'impression de continuer à faire la même chose, ou est-ce que pour vous, il y a une différence ?
Ah non, c'est quand même complètement différent. D'abord, c'est détendu. C'est, ce qui n'est pas fini aujourd'hui, ma foi, sera fini demain ou le week-end prochain. Ça, c'est... Alors que dans le travail, il faut respecter des délais. C'est une nécessité, en plus.
Et votre maison, vous l'avez bricolée ?
Ma maison, je l'ai un petit peu plus que bricolée, puisque c'est une très grande ferme que l'on a achetée à trois couples et qu'on a entièrement retapée. Ça fait maintenant 10 ans et c'est pas encore fini.
Entièrement retapée, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous avez fait ?
En ce qui concerne, par exemple, mon logement, puisque j'habite avec mon beau-père et un ami de mon beau-père, pour vous donner une idée, mon logement, c'était une grange. Lorsque je suis arrivé, il y avait un tracteur au milieu. Point final, la terre battue par terre. Et aujourd'hui, c'est une maison à peu près habitable, avec 6 pièces, 170 mètres carrés habitables, et que j'aime beaucoup. Les murs font 1 mètre d'épaisseur, c'est de la pierre rejointoyée, c'est des souvenirs.
Claude Bonnette-Lucas, la maison, ça peut être un terrain de jeu fabuleux pour les bricoleurs, comme ce Bernard Léger qui est parti d'un tracteur dans une grange et qui est arrivé à un 6 pièces.
Ça peut être un terrain de jeu, mais ce qui m'a frappé aussi, ce que j'ai vu chez certains bricoleurs qui avaient construit leur maison entièrement eux-mêmes, c'est la longueur, le temps de l'investissement. C'est-à-dire, ce n'est pas un jeu qui dure quelques heures. C'est un jeu sur 10 ans, c'est un jeu sur 15 ans. Je ne sais même plus
ça
si on peut
même être un jeu sur la vie, non ?
Ça peut être un jeu sur la vie, c'est-à-dire que les durées sont très importantes.
Alors, le bricolage, on l'imagine en fait peu en appartement, on l'imagine plutôt en maison individuelle.
C'est vrai que quand on regarde le nombre de bricoleurs, proportionnellement, il y a beaucoup plus de bricoleurs parmi les propriétaires, et surtout parmi les propriétaires de maisons individuelles, et beaucoup moins parmi les locataires et parmi ceux qui vivent en appartement, même s'ils sont propriétaires.
Et pourquoi ?
Alors, disons que il ne faut pas. Enfin, je crois que là aussi, il ne faut pas être complètement simpliste. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une tendance générale à dire, dès qu'on est dans une maison individuelle, il y a des travaux à faire, et donc on est en quelque sorte contraint à enchaîner les travaux les uns sur les autres.
C'est pas vrai du tout. Il n'y a rien à faire.
C'est vrai. Enfin, c'est vrai d'un certain côté, mais également, je pense qu'on pourrait présenter les choses à l'inverse. C'est-à-dire que je crois qu'un certain nombre de gens choisissent d'habiter en maison individuelle, justement parce que c'est un espace pour déployer leurs compétences, pour déployer ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont appris à faire, ce dans quoi ils ont vécu justement quand ils étaient jeunes, comme on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que bon, c'est important pour eux, par exemple, ils disent « quand je serai en maison, quand j'aurai ma maison », me disent certains jeunes gens, « je ferai tout et je me ferai un atelier ». Et quelquefois, le premier acte, justement, c'est l'organisation et l'aménagement de l'atelier.
Écoutez, c'est admirable cette envie de travailler comme ça qui est déclamée sur les ondes dès le matin. On va en reparler dans un instant avec vous, mais d'abord on écoute une petite chanson. Tiens, le fado des bras cassés de Rachel Desbois. C'est bien pour nous ça, non ?
Il y en a qui sont pas pressés d'aller au boulot s'enfermer et d'autres qui n'étaient pas encore nés. T'es déjà fatigué. Moi je chante pour tous ces gars-là, pour tous ceux qui sont cassés les bras. C'est le fado des bras cassés. Je suis des petits gars qui ont pas envie de bosser Et si la chance a la donne du courage, ça donne du cœur à l'ouvrage. C'est dur de se réveiller après une nuit annoncée. Pourquoi pas se recoucher, histoire de récupérer. De toute façon, la journée est foutue. C'est le fado des bras cassés. Si des petits gars qui ont pas envie de bosser. Et si de chance, ça leur donne du courage. Ça donne du cœur.
Alors les bricoleurs, c'est vraiment pas des petits gars qui ont pas envie de bosser.
Et justement, les bricoleurs, au contraire, j'allais dire, beaucoup d'entre eux sont des activistes, c'est-à-dire enchaînent les travaux les uns sur les autres. Alors là, je pense à un exemple très proche. Je parle de mon père, par exemple, qui ne cesse de détruire des serres dans son jardin pour en construire d'autres à côté, ou de changer l'aménagement.
Ce qui est très utile.
Changer l'aménagement.
Est-ce qu'il n'y a pas ce côté comme ça, un peu gratuit quand même, du bricolage ? Est-ce qu'il n'y a pas ? Est-ce qu'on ne s'invente pas des choses ?
S'inventer des choses, c'est possible, mais c'est vrai que, de toute façon, la différence, disons, entre le bricolage et l'artisanat, l'artisanat d'art, c'est qu'il y a quand même toujours un but ou un prétexte utile.
J'aime bien ce mot de prétexte, je l'aime
un prétexte,
bien.
Un prétexte utile. Bon, c'est vrai que, effectivement, la serre nouvelle ou le nouvel aménagement de camping-car que fera mon père sera meilleur que le précédent. Mais le précédent fonctionnait quand même.
Tout de même, ce que je remarque, mais c'est peut-être lié à vos origines pyrénéennes et à votre goût du grand air, c'est que vous décrivez beaucoup des bricolages en plein air. Or, moi, j'ai toujours imaginé le bricolage dans un garage, dans un atelier,
Oui, c'est vrai qu'il y a une image classique du bricoleur. Je crois que c'était Jacques Dutronc qui avait dit ça un jour. Pour lui, c'est le bricoleur, c'était l'horreur, parce qu'il voyait le bricoleur, après un repas trop lourd que lui avait servi sa femme, s'enfermer dans son garage et passer l'après-midi sur ses petites machines dans un univers complètement fermé, hors du monde extérieur. Bon, c'est assez faux. C'est-à-dire qu'il y a une sociabilité de bricoleurs, il y a des bricolages de plein air. Bon, mais il y a évidemment beaucoup de bricolages sur la maison. C'est bien quand même le lieu principal de l'investissement. La maison, de tous les travaux qu'on peut réaliser dans une
Donc,
maison.
Le bricoleur se répand dans toute la maison, n'ayons pas peur de le dire, c'est-à-dire qu'il va...
Là où sa femme lui permet de se répandre.
Ah.
Attention.
Ah. Parce que j'allais dire, quand même, le bricoleur laisse des traces sur son passage.
Non, il y a des bricoleurs très propres. Il y a un gendarme qui me dit « Moi, je suis le bricoleur parfait, ma femme n'a rien à ramasser après moi. »
Admirable.
Voilà. Non, le bricoleur, si vous voulez, il faudrait peut-être revenir un petit peu dans faire un petit peu d'histoire récente de la décoration. Il y a deux, si vous voulez, en gros, il y aurait quand même, on pourrait caractériser deux grands types d'intérieurs. Vous avez des intérieurs, des gens qui ont hérité de toute une série de meubles dans leur maison, etc. Bon, ceux-là ne vont pas, par exemple, mettre des meubles en kit achetés chez IKEA dans leur intérieur. Leur intérieur est déjà garni, en quelque sorte.
Mal, en effet.
Voilà. Donc, par contre, il y a également des intérieurs avec des tapisseries qui sont là pour poser par des artisans et qui sont là pour 20 ans. Et vous avez, depuis quand même une quinzaine d'années, vous avez un changement beaucoup plus fréquent des papiers peints, des modes de papier peint. Vous savez qu'on est passé des grandes fleurs, mettons petites fleurs ou mouchetures ou des choses qu'on appelle ethniques qui viennent de l'Amérique du Sud essentiellement. Bon, donc il y a eu des modes et ça c'est quelque chose d'assez de relativement nouveau.
Ce qui fait que le bricoleur va changer beaucoup plus souvent.
Là aussi, ses papiers stimule peints. Le bricoleur. Enfin, donc,
ça stimule le bricoleur, ça stimule beaucoup le marché du bricolage, surtout, il faut dire. Ça stimule, ça stimule l'économie. Bon, donc il y a un gros marché là-dessus parce que finalement, les jeunes ménages à l'heure actuelle ne vivent plus pendant 20 ans, pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans.
Dans les meubles de famille, avec les jolis napperons.
Dans les meubles de famille, avec les jolis napperons, etc. Bon, alors ça, c'est le premier point. Alors, quand vous disiez, le bricoleur se répand également dans toute la maison? Bon, il y a le bricoleur essaie de s'organiser un coin à lui, un atelier. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal d'observations. J'ai visité un certain nombre d'ateliers et pas mal d'hommes m'ont souvent dit que l'atelier, c'était leur coin, eux. C'est-à-dire que c'était justement le coin où ils pouvaient faire de la poussière, où il n'y avait pas de housse, si vous voulez, où il n'y avait pas de napperons.
Ben justement, les napperons ont disparu, effectivement.
Où justement...
Où on peut trouver un peu de limaille,
voilà,
un peu de cambouis.
C'était leur coin, eux. C'était le coin aussi où vous se réfugiez. Et ça, on le voit dans les couples. Il y a une façon, et d'ailleurs ça se voit aussi pour le jardin, il y a une façon pour l'homme d'être au foyer, de travailler pour le foyer sans y être. C'est-à-dire, il y est. Il est dans son atelier, il est dans son garage, il est dans son jardin. Vous le verrez peut-être avec les jardiniers.
Mais protégé dans une enclave.
Il travaille pour le foyer. Hein, il y a des femmes qui me disent, au moins quand il est à l'atelier, je sais où il est. Sous-entendu, il n'est pas au café. Il n'est pas au café, il n'est pas avec les copains, etc. Hein. Bon, donc c'est une façon d'être au foyer sans y être. D'être dans la maison sans y être. Mais il y a, je veux dire tout ça un peu caricatural, il y a évidemment un très gros investissement de travail sur la maison. C'est vrai que...
On l'imagine effectivement très bien et très volontiers à la salle de bain ou dans la cuisine, mais peut-être moins dans les pièces à vivre, sauf effectivement pour ces activités de décoration que vous évoquiez.
Bon, dans les pièces à vivre, oui, les activités de décoration avec une participation souvent importante de la femme, notamment dans le choix, parce qu'il faut, dans le choix de ce qu'il faut faire aussi. Et même d'ailleurs pour des choix de bâti... Bon, j'ai constaté aussi, puisqu'on parlait des couples tout à l'heure, que la femme est souvent la maîtresse d'œuvre. C'est-à-dire que c'est l'homme qui exécute, et éventuellement d'ailleurs en se servant de la femme comme arpète, disons comme aide, pour porter les sacs de ciment, j'exagère un peu, mais enfin...
Allez, les trois briques.
Voilà, pour porter trois briques et pour aller lui chercher la vis parce qu'elle est en haut de l'échelle. Mais, et l'outil qu'il faut. Mais en fait, c'est elle qui est la maîtresse d'œuvre. C'est-à-dire que j'ai des bricoleurs qui me disent, c'est ma femme qui me fait le plan des travaux. Elle m'a dit, tu vas faire la salle de bain, mais après tu feras la descente de garage, ensuite tu feras ceci.
Mais Claude Bollet-Lucas, voyez comme c'est intéressant. Vous avez commencé cette émission en présentant la femme comme une... bricoleuse d'abord rare, relativement, par rapport aux hommes, et puis se cantonnant dans certains travaux, c'est-à-dire qu'on sentait quand même une place assez secondaire dans une population largement dominée par nos chers camarades les hommes. Et puis là, on approche de la fin de l'émission et on se rend compte que finalement la femme n'aurait pas un rôle aussi effacé qu'on voudrait bien l'avoir pensé un peu rapidement.
Oui et non.
Vous n'osez pas le dire vraiment, hein.
Non, c'est-à-dire que je suis... je suis une femme et je suis féministe, donc je ne veux pas dire qu'elle a un rôle effacé. Ce que je veux dire, c'est que au niveau de l'exécution, quand même, au niveau des compétences déployées, c'est vrai quand même qu'il y a... Cette jeune fille dont qu'on entendait parler au début et qui disait, j'aimerais bien apprendre, c'est vrai qu'il y a... c'est quand même beaucoup moins fréquent que chez des hommes qui disent, on peut tout apprendre, on peut essayer de
tout faire. Oui, il y a une sorte de... Ils sont rassurés devant le bricolage.
Alors, ceci dit, c'est vrai aussi qu'il y a deux types de bricoleurs. Il y a des bricoleurs polyvalents, c'est-à-dire ceux qui veulent répondre aux besoins du ménage et qui disent...
Qui veulent tout faire à la maison.
Mm-hmm. Alors, plus ou moins, selon leurs compétences. Mais enfin, ils veulent tout faire à la maison. C'est-à-dire qu'ils me disent, à la cuisine, j'ai installé le sanitaire, etc. Là, j'ai fait l'électricité. Là, j'ai posé la moquette, là, etc. Bon, répondre aux besoins du ménage. Et il y a des bricoleurs beaucoup plus spécialisés. Il y en a qui sont, en particulier parmi les cadres supérieurs, qui seront du côté du bricolage quand même presque du hobby, c'est-à-dire l'ébénisterie ou le bricolage électronique ou la restauration, les fous de vieilles voitures, si vous voulez. Donc des bricolages qui, eux, ne sont pas polyvalents.
Mais peut-être aussi que l'inventivité, l'ingéniosité serait plus du côté des hommes. En tout cas, c'est ce qu'on peut imaginer en écoutant cette archive que je vous propose du concours Lépine 1972.
Connaissez-vous le rayon laser pour couper le beurre en tranches ou bien la turbine à gaz pour réussir une mayonnaise ? Non, bien sûr, car toutes ces inventions n'ont jamais été inventées. En revanche, si vous allez à la foire de Paris demain, n'oubliez pas de visiter le hall du concours Lépine. Certes, vous rirez devant des inventions parfaitement farfelues, mais vous serez aussi intéressé par des dispositifs, des gadgets, qui incontestablement vous rendront un jour la vie plus facile. Une enquête de Pierre Debranche, qui a d'abord écouté la fanfare officielle, puis rencontré le président du concours Lépine 1972, M. Vildochet.
Le concours Lépine a été créé par un grand préfet qui s'appelait Louis Lépine en 1902 lorsqu'il avait constaté que les marchands, les petits inventeurs, les bricoleurs qui étaient dans la rue, dans des baraques, étaient à la pluie, au vent. Il les a réunis dans le hall du tribunal de commerce de manière à ce qu'ils soient à l'abri de la pluie. Ces personnes ont créé une association qui s'est appelée l'Association des inventeurs et petits fabricants français. Et puis le concours Lépine est né de la sorte. Le concours Lépine a été au départ le premier salon de l'aviation, le premier salon de la radio, et j'en passe. Alors, nous essayons de remonter, si vous voulez, ce courant pour faire reprendre à la France sa place, qui était la première il y a quelques décennies, comme nation inventive, alors que maintenant, elle est au 8e rang.
Quels sont les grands inventeurs qui ont été primés au concours Lépine ?
Monsieur Mantelet, qui a présenté un moulin à légumes au concours Lépine et qui avait présenté l'année d'avant un petit appareil également. Nous pouvons citer comme grandes inventions, qui ont d'ailleurs passé à l'étranger, puisque les Français n'ont pas été assez malins pour s'en occuper, c'est le poumon d'acier. L'hélice à pas variable a été présentée au concours Lépine. On peut en citer comme ça un très grand nombre, et qui au départ d'ailleurs n'ont pas toujours été prises au sérieux. C'est pour ça que je suis très sceptique et que j'admets ici aussi bien de nouveaux tire-bouchons ou de nouveaux ouvre-boîtes que des appareils affûtés les lames de microtomes.
En somme, le concours Lépine est ouvert aussi bien aux inventeurs qu'aux bricoleurs de génie.
Aux bricoleurs de génie qui deviennent des inventeurs. Et si on aide ces inventeurs et qu'on les dirige, on peut peut-être en faire des inventeurs de choses très valables. D'ailleurs, l'expérience le montre. Nous avons un inventeur qui présente toujours quelque chose de nouveau. Il a démarré avec une poignée pour porter les plaques de tôle. Et il a créé une industrie avec 150 ouvriers. Il exporte dans 14 pays différents. Ceci remonte seulement à 6 ans. Et aujourd'hui, cette année, il présente encore une nouvelle invention qui est une sangle pour tenir les bagages sur les toits. Alors vous voyez que c'est très varié. Et on a un appareil, par exemple, cette année, qui mesure plusieurs mètres de long et pour mettre les bateaux à la mer ou les retirer de l'eau sur les plages. Mais nous avons également un nouvel ouvre-boîte.
Qui peut se présenter au concours Lépine ?
Tous ceux qui ont une idée et une invention.
Il n'y a aucune condition spéciale.
Aucune condition spéciale, ça manque de payer sa cotisation. Elle est très faible, hélas.
Le chauffeur, sans un geste des mains, peut déclencher le système d'alarme. La voiture s'arrête. Il y a une série de pétards qui se déclenchent en un temps prédéterminé, c'est-à-dire par exemple une seconde, trois secondes, cinq secondes, etc. On peut en mettre autant que l'on veut. Des fusées partent, des fusées rouges par exemple. En même temps, on peut commander une signalisation radio. Le montage est extrêmement simple, il suffit de quatre fils. Deux sont branchés sur la bobine d'allumage. Un sur le plus de la batterie et l'autre va aux alarmes.
Et cette valise qui est à terre, monsieur ?
Cette valise, elle est conçue spécialement pour les transporteurs de fonds ou alors pour des documents secrets. Le principe est extrêmement simple, je ne le divulgue pas ici. La personne qui transporte par exemple les fonds la tient dans la main. Il suffit qu'on lui arrache les mains pour que les explosions...
Qu'est-ce que c'est que cet appareil, madame ?
C'est un petit appareil qui se posera sur des branches de lunettes et qui servira de patron pour les pattes. Les messieurs, quand ils se rasent, tournent autour de l'appareil et automatiquement, les deux pattes sont de la même longueur et de la même largeur.
Claude Bonnette-Lucas, pour conclure cette heure passée avec vous, je ne sais pas, la réflexion que moi je me suis faite, c'est ce mélange étonnant et détonnant parfois de grandeur et d'humilité qu'on retrouve chez les bricoleurs. Grandeur et humilité dans leur façon de parler de leurs œuvres, grandeur et humilité aussi dans les inventions les plus farfelues qu'ils peuvent proposer, dans les choses qu'ils peuvent faire.
Alors, sur la grandeur et sur la fierté, c'est évident que je l'ai rencontré chez la plupart des bricoleurs. C'est-à-dire que vous avez une fierté d'avoir fait ce travail de bout en bout, de l'avoir réalisé tout seul. Et c'est un travail qui est un travail aussi bien intellectuel que manuel. Et j'insiste là-dessus, il n'y a pas de travail manuel. D'une certaine façon, un travail manuel pur, ça n'existe pas. Dans le travail le plus simple, il y a de toute façon de l'intellect mis en œuvre. Alors, c'est vrai qu'un certain nombre d'entre eux disent que, justement, par rapport aux artisans, ce qu'ils ont, c'est que, d'un côté, ils ont peut-être moins de compétences, mais en même temps, ils sont fiers parce qu'ils prennent le temps de faire. C'est-à-dire qu'ils fignolent plus. Et ils font, avec leurs moyens, ils font, eux, disent-ils, du vrai travail que devrait faire un professionnel.
Ah, donc peut-être plus de fierté que d'humilité. Mais tout de même, cette façon, effectivement, de se mettre un peu en retrait, de dire qu'ils ne sont pas des professionnels, et aussi, finalement, d'une certaine façon, de cadrer avec leur terrain d'élection, qui est le terrain proche, le domicile, le jardin, c'est-à-dire le territoire de soi et de sa famille.
De toute façon, oui, le territoire, l'investissement sur le territoire, sur le domestique, sur la partie domestique est effectivement très, très important. Mais c'est aussi, hein, c'est la maison, c'est aussi les objets qu'il y a dans la maison.
À la bêche et au fourneau vous est proposé par Ruth Stegassi, à la réalisation Didier Lagarde et à la technique Yannick Legendre.
À la bêche et au fourneau, le bricolage, par Ruth Stegassi, réalisation Didier Lagarde, avec Claude Bonnette-Lucas, chercheur au CNRS, Marie-Vonne Abolivier et Bernard Léger. Première diffusion sur France Culture, le 29 juillet 1995.